Georges Favreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a dans l'organisation du gouvernement chinois un bureau des religions. À quoi sert-il ?
Ce bureau des religions a été conçu en fait dans la démarche d'institutionnalisation des religions qui s'est opérée au cours du XXe siècle et qui s'est confirmée dans les années 50 au moment de l'accession au pouvoir des communistes et qui est toujours aujourd'hui en vigueur et qui a consisté à structurer le champ religieux et social chinois, ces différentes communautés de culte autour des grandes traditions liturgiques écrites, comme le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme et l'islam, et de purifier finalement des pratiques religieuses diverses, d'un contenu politiquement et scientifiquement considéré comme superstitieux et n'entrant pas dans le cadre de la construction de l'État tel qu'il était souhaité par les modernisateurs.
C'est Mao qui l'a créé ?
Non, ça remonte dès la fin de l'ère impériale. Il y a déjà l'idée des réformes de 1898 pour détruire les temples et construire des écoles modernes. Et dès 1912, la première république, il y a des premières tentatives de création de grandes associations taoïstes et bouddhistes entrant dans la démarche de construction de la Chine moderne.
Alors comment expliquez-vous la survivance aujourd'hui de ces religions et ces courants spirituels que sont le chamanisme, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme après le passage du maoïsme censé en faire table rase ?
C'est-à-dire que l'optique révolutionnaire, à la fois communiste, mais de manière plus générale moderniste, puisque les nationalistes étaient aussi impliqués dans ce genre de politique de destruction des traditions depuis la fin de la dynastie Qing. Et disons qu'avec le renouveau, suite à l'apogée de cette démarche pendant la révolution culturelle des années 60-70, la libéralisation, la relative libéralisation économique s'est accompagnée d'un assouplissement aussi au niveau des religions, et ça a permis à des communautés de culte locales de se recréer sur le terrain et dans la société, et à ces grandes institutions religieuses modernes d'intervenir comme intermédiaire finalement entre l'État et la société locale.
Alors le territoire que vous avez étudié, c'est le Henan. Vous êtes dans un petit village. Est-ce qu'à la campagne, vous avez pu constater une diversité des traditions locales qui sont encore très vivaces peut-être ou...
Alors effectivement, mon étude de terrain se déroule notamment dans l'est de la province du Hunan, qui, comme bien d'autres régions de Chine, alors il faut voir que la Chine est immense, donc déjà il y a des spécificités régionales très marquées. Mais il y a aussi des diversités culturelles très, très développées, puisqu'on a des communautés de culte à des divinités fort différentes. On a des communautés plus basées sur le culte aux ancêtres familiaux, aux ancêtres des patrilignages. On a des communautés s'assemblant autour de culte à des divinités de différentes natures, type des divinités du sol, par exemple, ou des divinités des ancêtres héros qui auraient marqué l'histoire de la localité ou de la région, des divinités d'envergure locale, régionale, voire nationale, par exemple comme Guanyin, qui est un bodhisattva, ou des divinités pures, comme disent les taoïstes, qui sont... le fruit d'élaboration lié à la méditation, au rituel, allant vers ce que les taoïstes définissent comme étant des niveaux de pureté et de clarté supérieurs, en fait.
Est-ce que vous avez constaté des particularismes ethniques en ce qui concerne le taoïsme, puisque dans cette région, il y a des miao ?
Alors, effectivement, on est en Chine du Sud, donc... il y a une diversité ethnique qui est très marquée. Il faut savoir par rapport au taoïsme, c'est justement que le taoïsme s'est développé dans l'histoire en relation à la fois à des traditions liturgiques écrites, donc des traditions intellectuelles et rituelles, mais toujours en contact avec des populations locales. Le taoïsme a joué un grand rôle dans la sinisation de ce qui est aujourd'hui le sud de la Chine. Il y a eu de nombreux échanges mutuels entre des traditions locales qui ont alimenté le taoïsme et le taoïsme qui a aussi transformé des traditions locales et intégré quelque part des traditions locales au monde chinois.
Alors c'est un territoire, le Hunan, donc, que les jésuites considéraient comme dangereux et peu perméable aux idées nouvelles. Bon, j'espère que ça a changé.
Alors en fait, ça c'est assez intéressant, mais c'est une époque assez précise en fait. C'est la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est intéressant aussi pour comprendre l'histoire de Mao, qui est né dans la région. En fait, il y a eu la guerre des Taiping, qui était une des guerres qui est peu connue en Occident, mais qui est en fait probablement une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, qui s'est déroulée dans les années 1850-1860. Et c'est l'armée du Hunan, en fait, qui a permis finalement de renverser ces Taiping et de sauver ce qui restait du régime Qing à l'époque. Et à cette période-là, alors que les grandes personnalités hunanaises étaient propulsés à des grands postes de responsabilité administrative à l'échelle nationale, le Hunan lui-même s'est fermé à l'apport étranger, puisque les Taiping avaient une religion, on va dire, ou en tout cas des croyances issues de l'influence étrangère et des missionnaires, disons, c'était une sorte de réinterprétation du christianisme. Voilà, donc et le Hunan s'est complètement fermé aux politiques de modernisation qui sont engagées, puisque la guerre des Taiping a aussi marqué une époque, c'était juste après les guerres de l'opium aussi, a marqué une époque de développement technologique et militaire, où les conceptions scientifiques et techniques occidentales commençaient à pénétrer la Chine. Et le Hunan, à cette époque, donc Changsha, la capitale du Hunan, était comparé à l'époque par les observateurs étrangers, était comparé donc à la cité interdite ou à Lhasa. C'était vraiment une zone vraiment c'était un danger, un vrai danger pour des étrangers de s'y rendre. Et dans les années 1890, le Hunan a été une des régions, enfin les milieux lettrés du Hunan ont été parmi les grands penseurs des réformes qui visaient à réformer, et ensuite des révolutionnaires, puisque Huang Xing, qui était le bras droit armé de Sun Yat-sen, menait des troupes hunanaises pour la révolution républicaine.
Mais quand même une grande attention à la tradition chinoise, et justement contre les influences étrangères.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, c'est dans le milieu des académies confucéennes du Hunan, qui au départ était vraiment ancré dans une tradition lettrée et des cultes à des ancêtres lettrés de la province, a pu évoluer vers la réforme et vers la révolution, jusqu'à ce que le jeune Mao étudie dans ces cercles-là, dans sa jeunesse.
C'est vrai que c'est une évolution étonnante. Est-ce qu'on pourrait dire que taoïsme et chamanisme sont de proches cousins ?
Alors en fait, je pense que dans le taoïsme, il y a des éléments qui relèvent du chamanisme, c'est-à-dire des petits rituels, par exemple, qui ne sont pas... en tout cas, du chamanisme. De la religion locale, c'est-à-dire d'une religion qui n'est pas structurée par des grands textes canoniques et des longs réseaux comme ça de monastères ou de textes qui fixent, on va dire, des canons, qui fixent des références. Et il y a aussi donc des aspects de rituels plus directs, oraux et ayant trait à des choses de la vie quotidienne, ayant trait à aussi des exorcismes, ayant trait à des choses qui aujourd'hui sont classées dans la superstition, comme aussi la divination, le feng shui, c'est-à-dire la géomancie, c'est-à-dire un ensemble de manières de gérer les lieux, de gérer le destin des personnes, de gérer des décisions, de gérer la maladie, de gérer la mort aussi, avec toutes les funérailles, etc. Donc il y a gérer la vie quotidienne de manière assez pragmatique.
Qu'est-ce qu'on entend en Chine quand on utilise le mot Tao ?
Ça, il faudrait demander à des Chinois. Je pense que, en fait, ça dépend du contexte, je pense, parce que on pense que Tao, évidemment, est une des grandes catégories de base de la pensée chinoise et aussi de sa structuration sociale et dans son histoire, mais c'est pas forcément uniquement lié au taoïsme. Déjà, la plupart, si ce n'est toutes les grandes traditions intellectuelles de la Chine antique, aussi bien confucianisme, taoïste que d'autres, faisaient référence à la notion de Tao. Au quotidien, effectivement, je n'ai jamais posé la question à un Chinois, il faudrait peut-être le faire.
Ben voilà, lors de votre prochain voyage, vous la poserez. Mais justement, vous connaissez bien les pratiques taoïstes. Quels sont les fondamentaux, finalement, de ces pratiques taoïstes que l'on connaît si mal en France ? Ben, les rituels, par exemple.
Effectivement, le rituel taoïste, personnellement, je le situe au centre d'un ensemble de pratiques qu'on peut considérer comme relevant du taoïsme, ou au moins qui participent du taoïsme, même si... Alors je pense, pour parler concrètement, je pense de la médecine, je pense à la musique, le tai chi chuan, des arts martiaux, un ensemble de pratiques comme ça qui ne sont pas uniquement taoïstes, mais qui en tout cas, dans un contexte taoïste, sont utilisées. Ce qui donne la cohérence à tout ça, c'est effectivement le rituel. Il a une dimension à la fois intellectuelle et à la fois pratique. Et... C'est lui qui va définir les valeurs, les hiérarchies, et qui va les définir, mais qui va aussi, par la pratique, les élaborer. Donc, en fait, par exemple, un maître taoïste, il peut considérer transmettre le taoïsme par les arts martiaux, transmettre le taoïsme par le rituel, par la musique. Tout ça, ce sont des pratiques qui deviennent des médias, des outils pour travailler, pratiquer le taoïsme.
Alors, vous parlez aussi parfois d'exorcisme à propos de taoïsme. Alors, comment ça se passe, finalement, un rituel d'exorcisme ?
Alors, je ne pense pas qu'il faut voir, comme le film du même nom, une espèce de grande scène de chasser un démon qui possède la personne. Une femme de préférence dans la tradition occidentale. Comment dire ? C'est pour moi un ensemble de pratiques qui ont une dimension liée à la transe, où il y a un état, en tout cas, de l'officiant qui est un état un peu second, un état de conscience et de rapport au corps et à rapport à la situation qui est un peu second, et qui implique des actes d'ordre martial, à savoir notamment... repousser, expulser des forces considérées déviantes ou excessives ou inadaptées ou néfastes ou périmées. Ça peut être aussi inféodé, c'est-à-dire donner un point de référence et soumettre, par exemple, un démon ou quelque chose qu'on considère comme étant, que le maître taoïste va considérer comme étant, comme je le disais avant, périmé, inadapté. Donc ça peut être expulsé ou inféodé, et ça peut être aussi, après ça devient aussi un point de rassemblement. C'est-à-dire que la force inféodée peut être transformée et va se mettre au service après du maître taoïste, en fait.
Finalement, c'est un combat, en quelque sorte, contre les mauvais esprits.
Ben alors, effectivement, il peut y avoir un combat contre les mauvais esprits, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur, puisque dans les démarches de méditation, il y a des représentations. Le fait de devoir dompter certaines pulsions déviantes, voilà, qui seraient considérées déviantes, de les dompter pour les raffiner, justement. C'est-à-dire que c'est toujours. Dans le taoïsme, il y a quand même cette idée où ça va être dompté pour en faire autre chose de mieux, en fait. Voilà, c'est enfin de mieux, en tout cas selon les critères qui se donnent. C'est pas l'idée de détruire, plutôt l'idée de dompter pour sublimer
et progresser. Alors, vous avez eu la chance de partager la vie quotidienne de maîtres taoïstes. Est-ce qu'ils se sont livrés facilement à un étranger ?
Les réactions sont variables, hein. C'est-à-dire que on peut trouver des gens qui vont être très curieux ou très intéressés de voir un étranger qui s'intéresse au taoïsme ou qui peut-être est riche. On peut aussi trouver des gens qui vont ne pas pouvoir imaginer qu'un étranger puisse comprendre la grandeur du taoïsme chinois et reproduire un discours nationaliste comme c'est malheureusement trop souvent le cas en Chine. Mais simplement, bah, je pense que voilà, après, il y a des gens qu'on rencontre. Si qu'on arrive dans un lieu public où il y a plusieurs personnes, on va accrocher avec certains et pas avec d'autres. Donc moi, je m'intéresse surtout aux personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu soit passer des fois des moments relativement courts, mais très plaisants, très intéressants, très enrichissants, ou aussi créer des relations de long terme, puisque maintenant j'ai plusieurs amis taoïstes depuis une dizaine d'années, avec qui on continue à se voir régulièrement et... Et voilà, donc là, c'est des vraies relations d'amitié, c'est ça qui compte.
Alors, vous avez étudié la vie de Wang Ying, qui est né en 1918 et mort en 1993. Il a traversé toutes les épreuves et les mutations de la Chine du XXe siècle. Et du coup, ça vous a permis de faire une histoire de la Chine à travers lui.
Effectivement, donc c'était parmi les taoïstes... Il y a notamment un taoïste donc qui est le maître de ce petit temple de campagne où je me rendais régulièrement, donc qui est la personne finalement que je connais le mieux sur le terrain, donc en voulant creuser sa transmission, la transmission qu'il avait reçue, j'ai étudié la vie de son maître. Donc, il s'avère que son maître avait tenu des responsabilités assez importantes dans l'institutionnalisation des religions, du taoïsme, en particulier dans les années, à partir des années 50 et jusque dans les années 80, puisqu'il est décédé en 1993. Et c'est vrai que c'était un moyen de passer par un cas vivant et précis pour essayer de voir comment ça permettait de re-questionner donc l'histoire contemporaine chinoise en général et celle du taoïsme et des religions en particulier au travers donc d'un destin individuel à la fois singulier mais aussi bien sûr qui remonte sous un nouveau jour des grands événements comme le grand bond en avant, les accusations anti-droitiers, la révolution culturelle, puis la recomposition de l'espace religieux et social chinois dans les années 80, en l'occurrence depuis une des grandes montagnes sacrées de Chine, une des cinq montagnes qui marquent le territoire impérial chinois, le pic du Sud, où il fallait refédérer les communautés de culte de la province sous l'égide d'une association d'État sous tutelle du Bureau des Religions, dans un environnement désormais réouvert au tourisme, enfin développé même pour le tourisme de masse, avec des enjeux identitaires très importants, puisque après avoir voulu faire table rase du passé, bah là il s'agissait au contraire de brandir haut les grands symboles, les grands paysages de ces montagnes d'une Chine multimillénaire qui devait redonner un sens aux Chinois et être une image de la grandeur du pays vis-à-vis des Chinois et vis-à-vis du monde extérieur. Donc, cette montagne, comme beaucoup d'autres éléments du patrimoine chinois, était à nouveau, à l'inverse des décennies précédentes, était brandie haut et fort pour retrouver une identité et une place dans la mondialisation.
Le taoïsme d'aujourd'hui, c'est un taoïsme réinventé.
Alors, il y a des éléments réinventés, il y a des éléments aussi de continuité. Ça fait partie des études qui sont en cours ces dernières décennies, c'est assez, assez difficile de faire le tri de tout ça, parce qu'évidemment, tout l'aspect institutionnel, c'était la première fois que le taoïsme, depuis les années 50, pour la première fois dans l'histoire que le taoïsme a une organisation hiérarchisée selon la hiérarchie territoriale du gouvernement. Donc ça, c'était tout à fait une nouveauté. Évidemment, certaines formes de rituels considérés comme superstitieux ont été expulsées du champ religieux officiel, ce qui n'empêche pas qu'ils continuent sur le terrain d'être pratiqués. Mais en même temps, qui continue d'être pratiqué quand certains savoirs n'ont pas été oubliés, parce qu'il y a aussi des savoirs qui sont oubliés, il y a aussi des changements d'ordre technologique ou économique qui modifient des pratiques. Par exemple, une pratique de pèlerinage avec un téléphérique sur la montagne, évidemment, c'est plus la même chose qu'avant, où il n'y avait même pas de route pour aller jusqu'à la montagne, même pas un siècle avant. Donc évidemment, il y a des changements de ce type-là, il y a forcément des réinventions, mais il y a aussi eu des continuités, c'est-à-dire qu'on a beaucoup vu le drame de cette période de collectivisation à outrance et de révolution culturelle, drame d'un point de vue religieux mais aussi social, puisque la collectivisation c'était aussi une grande destruction des formes de socialité et des communautés locales. On a vu donc cet aspect-là, mais malgré tout, les Chinois ont quand même quelque part continué à faire comme ils avaient toujours fait. Là, quand on parle de la religion, on parle aussi des catégories de base de la pensée et de l'organisation sociale. Donc, il est tout à fait logique qu'après une vingtaine d'années d'interdiction, même violent, déjà pendant ces 20 ans, il est logique qu'il y ait eu des continuités. On ne peut pas empêcher quelqu'un de méditer dans sa chambre ou de se réciter des textes dans son coin. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui sait guérir dans un village. Si on a besoin de lui, on va quand même faire appel à lui. Donc il y a certaines formes de continuité. Évidemment, les assemblées liturgiques communautaires étaient impossibles, mais beaucoup de pratiques d'ordre privé, dans la sphère privée, et des pratiques d'utilité publique telles la guérison ont pu continuer dans une certaine mesure à porter le taoïsme pendant cette période. Et dans les années 80, quand il y a eu une relative libéralisation, il a été tout à fait logique que les gens remettent en place ce qu'ils savaient, je ne veux pas dire patrimoine, parce que patrimoine, ça implique déjà des conceptions particulières, mais leur savoir et leur mémoire et leur forme de société.
La mémoire, ça me semble un mot adapté. Alors, qui dit taoïste dit aussi parfois moine, et qui dit moine dit monastère. Les monastères taoïstes ne sont pas construits n'importe où.
Chaque monastère taoïste est construit déjà en fonction de règles géomantiques. Donc, qu'il soit en ville, en montagne ou en plaine, il va y avoir des critères d'ordre géomantique qui sont simplement des conceptions, des manières de lire et de lire le paysage et de l'aménager en fonction des souffles et des directions, de conception aussi de l'astronomie. Voilà. Après, il y a des monastères en plaine, mais c'est vrai qu'il y a des monastères particulièrement en montagne. La montagne est un milieu important pour les taoïstes, puisque les saints ou les immortels taoïstes sont littéralement des hommes montagne. Si on décompose le caractère, on a un homme et une montagne qui forment donc le caractère. Et des monastères en ville aussi, hein. Et tout ça, ces monastères taoïstes sont des grands centres de savoir et de pouvoir dans l'histoire chinoise.
Qui sont les immortels taoïstes? Ce qu'on appelle immortels chez les taoïstes. Ça paraît un petit peu compliqué à comprendre pour nous.
Eh bien, donc, ce qu'on traduit par immortel, c'est cette notion d'homme-montagne. On pourrait peut-être les comparer un petit peu à des saints, pour faire vite, mais disons que par la pratique de l'alchimie, soit externe, soit interne, c'est-à-dire la méditation, la vie retirée en montagne, en raffinant leurs énergies, leurs humeurs et leurs énergies corporelles, ils atteindraient un état qui transfigure leur mort, en fait, qui fait que après ils sont reconnus comme des, un peu comme des ancêtres aussi, c'est-à-dire que un défunt chinois va être transformé en ancêtre, et va recevoir un culte aux ancêtres par ses descendants. Là, dans ce cas, les immortels vont recevoir un culte par les disciples de leurs disciples, etc. Et vont parfois apparaître à des gens, être la source de vision ou de révélation, et vont transmettre des textes ou des techniques secrètes à des descendants, mais en termes rituels. C'est-à-dire, là, on a, à partir de ces immortels, se reconstituent des généalogies rituelles entre maîtres, disciples et condisciples.
Est-ce que les jeunes Chinois d'aujourd'hui sont attirés par la vie dans un monastère taoïste ?
Bah, au moins certains, puisqu'il y a des jeunes moines. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup plus de gens par le passé qui étaient intéressés. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une différence quantitative. Même le taoïsme peut être, dans certains cas, une stratégie de migrants qui viennent, comme les ouvriers et autres Mingong, qui viennent de la campagne pour travailler en ville ou dans les zones industrielles, d'ailleurs qui remplissent une bonne partie de l'ensemble des services dont profitent les Chinois aisés et nous aussi, puisque si nos ordinateurs sont si peu chers, c'est un peu grâce à eux. Dans ces migrants, il y a je pense aux taoïstes de Shanghai, hein, par exemple, ils sont beaucoup à venir effectivement de la campagne et à avoir finalement fait carrière dans le taoïsme, ce qui leur permet de s'installer en ville, d'avoir un métier.
Ah bah c'est pas mal finalement. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont une place importante chez les taoïstes ?
Alors, dans une certaine mesure, dans une société fortement patrilinéaire comme la société chinoise, le taoïsme offre des possibilités d'émancipation relative pour les femmes dans l'histoire, mais ce n'est pas non plus le seul moyen. Mais disons qu'en tout cas, de manière générale, une maîtrise technique ou une maîtrise rituelle offre à une femme la possibilité de s'autonomiser, vis-à-vis du patrilignage d'où elle est née et qu'elle était destinée à quitter par le mariage. Et pour passer l'autorité de son époux et d'un nouveau patrilignage. Donc là, le taoïsme qui implique de sortir de la famille, c'est-à-dire les transmissions taoïstes, il y a certaines transmissions taoïstes qui se font dans le cadre de la famille, souvent de père en fils, ou en tout cas sur un modèle où la descendance rituelle et la descendance biologique concordent plus ou moins. Et le taoïsme monastique, où là, il s'agit de quitter sa famille pour entrer en religion entre monastères. Donc là, évidemment, ça, il y a des monastères de femmes, il y a beaucoup de monastères mixtes. Et une femme taoïste qui a une maîtrise rituelle reconnue peut recevoir tout à fait des disciples, hommes comme femmes, et voire diriger un monastère. Donc on a de l'autorité féminine qui peut venir du taoïsme. Mais en même temps, même si d'un point de vue symbolique, l'idée qu'il y a une complémentarité entre le yin et le yang, entre l'homme et la femme, malgré tout, la femme, par exemple, dans le taoïsme, n'est pas forcément toujours censé être capable d'avoir certains enseignements secrets par rapport à des hommes. Donc on peut pas non plus, on peut parler d'une égalité beaucoup plus grande que dans la moyenne, disons, de la société, mais on peut pas non plus parler, je pense, d'une égalité parfaite.
Oui, il ne faut pas idéaliser. Georges Favreau, merci.